Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 2. Emma descendit la première, puis Félicité, Monsieur Lheureux, une nourrice. Elle en fut obligée de réveiller Charles dans son coin, où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue. Homais se présenta. Il offrit ses hommages à madame, ses civilités à monsieur, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services, et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d'une bottine noire. Le feu l'éclairait en entier, pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe, les pores égaux de sa peau blanche, et même les paupières de ses yeux, qu'elle clignait de temps à autre. Une grande couleur rouge passait sur elle selon le souffle du vent qui venait par la porte entrouverte. De l'autre côté de la cheminée, un jeune homme, à chevelure blonde, la regardait silencieusement. Comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville, où il était clerc chez maître Guillaumin, souvent monsieur Léon Dupuis, c'était lui le second habitué du Lion d'Or, reculait l'instant de son repas, espérant qu'il viendrait quelques voyageurs à l'auberge avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie, il lui fallait bien, faute de savoir que faire, arriver à l'heure exacte et subir depuis la soupe jusqu'au fromage le tête-à-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus et l'on passa dans la grande salle où Madame Lefrançois, par pompe, avait fait dresser les quatre couverts. Homais demandait la permission de garder son bonnet grec, de peur des coryzas. Puis, se tournant vers sa voisine, « Madame sans doute est un peu lasse, on est si épouvantablement cahoté dans notre hirondelle. »« Il est vrai, » répondit Emma, « mais le dérangement m'amuse toujours, j'aime à changer de place. » « C'est une chose si maussade, soupira le clerc, que de vivre cloué aux mêmes endroits. « Si vous étiez comme moi, dit Charles, sans cesse obligé d'être à cheval. « Mais, reprit Léon, s'adressant à madame Bovary, rien n'est plus agréable, il me semble, quand on le peut, ajouta-t-il. « Du reste, disait l'apothicaire, l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées. Car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet, et généralement l'on paye assez bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons, sous le rapport médical, à part les cas ordinaires d'entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais en somme peu de choses graves, rien de spécial à noter, si ce n'est beaucoup d'humeurs froides, et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary, bien des entêtements de la routine, où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science. Car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat, pourtant, n'est point, à vrai dire, mauvais, et même nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre, j'en ai fait les observations, descend en hiver jusqu'à 4 degrés, et dans la forte saison touche 25-30 centigrades tout au plus, ce qui nous donne 24 réaumures au maximum, ou autrement 54 Fahrenheit, mesure anglaise. Pas davantage. Et, en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil, d'une part, des vents d'ouest par la côte Saint-Jean, de l'autre, et cette chaleur, cependant, qui, à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d'ammoniac, c'est-à-dire azote, hydrogène et oxygène, azote et hydrogène seulement, et qui pompant à elle l'humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissant en un faisceau, pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l'électricité répandue dans l'atmosphère, lorsqu'il y en a, pourrait à la longue, comme dans les pays tropicaux, engendrer des miasmes insalubres. Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté où elle vient, ou plutôt d'où elle viendrait, c'est-à-dire du côté sud, par les vents de sud-est, lesquels, s'étant rafraîchis d'eux-mêmes en passant sur la Seine, nous arrivent quelquefois tout d'un coup comme des brises de Russie. Avez-vous au moins quelques promenades dans les environs ? Continuait Madame Bovary, parlant au jeune homme. Oh, fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer surtout. Oh, j'adore la mer, dit Monsieur Léon. Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal. Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et à 1000 pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'en trouvent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. « Vous faites de la musique ? » demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup, » répondit-il. « Oh, ne l'écoutez pas, Madame Bovary, » interrompit Homais en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. Comment, mon cher, et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire. Vous détachiez cela comme un acteur. » Léon, en effet, logeait chez le pharmacien où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait pas au juste la fortune du notaire et il y avait la maison Tuvache qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. « Et quelle musique préférez-vous ? Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver. Connaissez-vous les Italiens ? « Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit. »« C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui. Vous vous trouvez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vu. » D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage. Buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle, tout exprès pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra... Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre à lire. « C'est comme moi, » répliqua Léon. « Quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat le carreau, que la lampe brûle. N'est-ce pas ? » fit-elle en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. « On ne songe à rien, » continua-t-il. « Les heures passent, on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails, » ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. « c'est vrai, » disait-elle. « Vous est-il arrivé parfois, » reprit Léon, « de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié ?»« J'ai éprouvé cela, » répondit-elle. « C'est pourquoi, » dit-il, « j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. »« Cependant, ils fatiguent à la longue, » reprit Emma. « Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. En effet, observa le clerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Toste, sans doute, reprit Emma. Aussi, j'étais toujours abonnée à un cabinet de lecture. Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien, qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, L'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville et les alentours. Depuis 2 heures et demie, on était à table, car la servante Artémise, traînant nonchalamment sur les carreaux ses savates de lisière, apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait à rien et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard qui battait contre le mur du bout de sa clenche. Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue qui tenait droit comme une fraise un col de batiste tuyauté. Et selon les mouvements de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'enfonçait dans le linge ou en sortait avec douceur. C'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qu'ils ne connaissaient pas, Toste où elle avait vécu, Yonville où ils étaient. Ils examinèrent tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison et les convives bientôt levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait monsieur et madame Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main le parapluie de monsieur le curé, l'on se mit en marche. Le bourg était endormi. Les piliers des halles allongeaient de grandes ombres. La terre était toute grise comme par une nuit d'été. Mais la maison du médecin se trouvant à 50 pas de l'auberge, il fallut presque aussitôt se souhaiter le bonsoir et la compagnie se dispersa. Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules, comme un linge humide, le froid du plâtre. Les murs étaient neufs et les marches de bois craquèrent. Dans la chambre, au premier, un jour blanchâtre passait par les fenêtres sans rideaux. On entrevoyait des cimes d'arbres et plus loin la prairie, à demi noyée dans le brouillard qui fumait au clair de lune selon le cours de la rivière. Au milieu de l'appartement, pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commode, des bouteilles, des tringles, des bâtons dorés avec des matelas sur des chaises et des cuvettes sur le parquet, les deux hommes qui avaient apporté les meubles ayant tout laissé là négligemment. C'était la 4e fois qu'elle couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent, la seconde celle de son arrivée à Toste, la 3e à la Vaubyessard, la 4e était celle-ci. Et chacune s'était trouvée faire dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses pussent se représenter les mêmes à des places différentes. Et puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur.